adapté RFI.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Diribarne qui, dans l'essai qu'il a publié aux éditions du Seuil sous le titre « L'étrangeté française », se demande au fond si notre modèle social est soluble dans la mondialisation. Parce que, c'est évident, ce modèle social est en crise. Il est en crise comme il est en crise dans tous les pays démocratiques où la dépendance du salarié peine à s'accorder avec la liberté du citoyen. Régulièrement, vous entendez, comme moi, des responsables politiques ou des responsables économiques qui affirment qu'il faut libérer le travail, ce qui passe peu ou prou par une certaine libéralisation de la législation du travail. Voit-il juste ? Le fonctionnement d'une économie hautement concurrentielle est-il compatible avec l'attachement à la stabilité des statuts ? Universaliste, la France s'est engagée avec enthousiasme dans la construction d'un monde où les peuples seraient unis par-delà les frontières. Mais cette mondialisation a déçu, car si les mieux armés de nos concitoyens par leur formation, leur dynamisme ou leurs relations ont beaucoup gagné, d'autres, moins armés, se sont trouvés laissés pour compte, voués au chômage ou prématurément réduits à l'inactivité. Pour eux, l'économique a cessé d'être le moteur du social. À partir de là, la France doit-elle s'ouvrir sur le monde et cesser de s'accrocher à des particularismes qui n'ont plus lieu d'être ? Ou doit-elle défendre bec et ongles une organisation de la société qui protège les faibles de l'avidité des forts ? Où doit-elle conserver son modèle en le modernisant ? Mais comment ? Inutile de vous dire l'actualité de telles questions. Et si l'essai de Philippe Diribarne est passionnant, c'est précisément parce qu'il ne répond pas en économiste, mais quasiment en anthropologue. Certes, il est plus que temps d'admettre que la France n'est pas le monde, mais n'est que la France, mais il est temps aussi de rappeler avec réalisme qu'une société ne saurait faire abstraction de la dimension mythique dans laquelle elle baigne. Philippe Diribarne, depuis un demi-siècle, les réformateurs de droite comme de gauche qui cherchent à moderniser la société française partent du postulat suivant, l'économique est le moteur du social. Autrement dit, plus le gâteau est gros et plus chacun peut en avoir une belle part. Ou plus une économie est prospère, plus il est possible de mener des politiques sociales hardies. Autrement dit encore, c'est en libérant l'économique des entraves qui font peser sur lui une vision archaïque du social que l'on réunira les conditions pour mener des politiques sociales dignes de ce nom. Ces réformateurs pensent-ils juste ?
Je crois qu'ils ont tout à fait pensé juste. Disons, ça a correspondu à toute une période historique dans laquelle effectivement, disons de la fin des années 40, les années 50, encore le début des années 60, la France a connu une très grande croissance économique fondée sur une libéralisation, le transfert massif de l'agriculture vers l'industrie et l'utilisation des fruits de la croissance pour réaliser une politique sociale à la fois de protection sociale, de développement, de la santé, de l'éducation, etc. Donc je crois qu'il y a eu effectivement quelque chose. Bon, à certains égards, quand on parle du modèle social français, bon, c'est un peu à ça, disons, ce qu'on pense, et dans lequel on a à la fois lutté contre la précarité, puisque a fait partie aussi de ce modèle, disons, une augmentation de la stabilité de l'emploi, des difficultés du licenciement, etc., etc. Alors, ce qu'on constate actuellement, c'est que effectivement, ça ne marche plus. Disons, tout le monde s'accorde sur le fait de savoir que ça ne marche plus, mais on se demande, disons, au fond, pourquoi. Alors, ce qui me semble, si vous voulez, être une différence de contexte très très grande par rapport à l'époque dans laquelle ça marchait, c'est que dans cette période, disons, de grand succès de l'économie, on voyait que tout le monde pouvait trouver facilement sa place dans l'appareil productif. On avait, disons, toute une industrie dite taylorienne, qui certains égards étaient peu satisfaisantes, mais qui a ouvert ses bras à tous les gens venant de l'agriculture, a ouvert ses bras à des tas d'immigrés non qualifiés, etc. Maintenant, on est dans une toute autre économie, dans laquelle, de plus en plus, toutes les tâches relativement peu qualifiées se voient transférées, disons, vers d'autres pays, et où on reste comme tâches peu qualifiées, des tâches qui sont des tâches de service à la personne, qui, en France, sont considérées comme assez peu dignes. Vous allez aux États-Unis, prenons un exemple emblématique, vous verrez plein de cireurs de souliers. En France, vous verrez pas beaucoup de cireurs de souliers. Et en plus, si vous voulez, dans les pays, aux États-Unis, disons en Angleterre, on est arrivé à gérer cette transformation, disons, du contexte économique en développant et en multipliant des emplois précaires, mal payés, de service à la personne. Dans les pays, le Danemark qui est à la mode en ce moment, on est arrivé à gérer cette évolution, disons, économique en exerçant une forte pression sur chacun pour qu'il exerce les emplois qui se présentaient là, et en plus, en faisant un énorme investissement dans le coaching des personnes qui étaient en difficulté. Alors, en France, à la fois, on n'a pas voulu développer un système, disons, à l'anglo-saxonne, et on comprend pourquoi, hein, parce qu'on voit bien que, disons, ce système, c'est un système, disons, qui met l'accent sur une sorte de précarité, de flexibilité, donc de précarité, donc de disparition des statuts. Donc, on a raison, à l'état d'égard, disons, dans la logique française, de ne pas le faire, et en même temps, on n'a pas voulu développer un système de type, disons, danois, parce que développer un système de type danois, c'est à la fois faire pression, disons, sur les gens pour qu'ils fassent des travaux qu'ils ne trouvent pas forcément, disons, à leur hauteur, et c'est en même temps faire tout un investissement vers des gens que l'on considère comme peu employables pour qu'ils deviennent employables. Et en France, déjà dire que quelqu'un est peu employable, c'est déjà une sorte d'insulte, c'est déjà une sorte de le rabaisser dans son rang, dans son statut. Alors, donc, c'est fait que la France est effectivement en position réellement difficile.
Vous venez de parler du modèle anglo-saxon. Certains imaginent, vous venez de le dire d'ailleurs, une sortie de la crise actuelle du modèle social français à l'anglo-saxonne. Il suffit d'écouter ceux qui sont fascinés, à droite comme à gauche d'ailleurs, par l'Angleterre post-thatchérienne, blairiste si vous voulez. Manifestement, et on l'a presque entendu à ce que vous nous avez dit, mais je voudrais en savoir un peu plus, vous n'y croyez pas, notamment à cause de l'importance accordée aux questions de rang. Expliquez-nous.
On l'a bien vu dans la crise du CPE. La crise du le CPE a été un tentative pour développer un marché du travail plus flexible et dans lequel, justement, est plus proche, disons, du modèle anglo-saxon. Et on a vu à ce moment-là quelles ont été les réactions. C'est de dire que si je perds les protections statutaires, disons, de la législation du travail française, je vais me retrouver dans une situation dans laquelle mon patron va pouvoir me faire faire n'importe quoi. Je vais devenir, en quelque sorte, taillable et corvéable à merci, comme on disait, disons, autrefois, et certains ont été juste à dire, on a vu des panneaux, des gens défiler avec un panneau, je ne suis pas un esclave. Donc, on est, c'est dans une vision des choses, dans lequel il ne suffit pas, si vous voulez, d'avoir un marché. Je refais un détour une seconde par le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, le marché est vu comme quelque chose de bien. Le marché est vu comme une sorte de dispositif automatique, qui va en toute objectivité et indépendamment de l'arbitraire des gouvernants, distribuer les gens selon les capacités que la nature leur a données. En France, on n'est pas du tout dans une vision comme ça. En France, on considère que si des gens sont en difficulté, c'est pas parce que la nature leur a donné moins de capacités et il ne serait pas justifié que le marché leur donne des positions en accord avec ça. En France, on dira que si quelqu'un est en difficulté, c'est parce que la société l'a maltraité.
Philippe Diribarne, quand on cherche à comprendre, comme vous, les spécificités d'une culture, est-ce qu'on n'est pas conduit inexorablement à une sorte de fatalisme? Je cite souvent cette maxime, il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible.
Quand on prend la France depuis deux siècles, on voit qu'il y a eu des tas de changements très profonds dans la société française. Je peux vous donner un exemple de choses que la société française a faites alors que ça pouvait paraître impossible. Au XIXe siècle, pour quelqu'un ayant une certaine position dans la société, le travail, vous évoquiez Proust tout à l'heure, dans le monde de Proust, travailler était quelque chose de tout à fait indigne. Actuellement, aucun Français, quelle que soit sa position dans la société, ne trouvera indigne de travailler. Alors, comment, par quelle alchimie, disons, la société française est arrivée à se transformer ? Bien, au fond, on voit que, quand on observe, disons, les entreprises françaises, on voit que les Français ont une extraordinaire capacité à transformer une activité qui pourrait paraître tout à fait prosaïque, terre-à-terre et pas intéressante, en de beaux problèmes auxquels on va donner des solutions créatives, élégantes et donc pleines de grandeur. Et donc, l'innovation, il y a une innovation institutionnelle, une innovation culturelle, qui a été de transformer donc ces problèmes prosaïques en de grands problèmes, ce qui du reste étonne beaucoup d'étrangers, hein, qui est de voir comment les Français, à partir de questions qui leur paraissent tout à fait pratico-pratiques, vont rentrer dans des grands débats de principes et vont développer, disons, des grandes pensées. Mais c'était une création qui a permis de changer tout en restant dans sa culture. De même, on peut dire que la création au long du 19e et au début du 20e des statuts a été une manière, hein, parce que c'est pas quelque chose qui existait, le statut du travail, la législation du travail n'est pas quelque chose qui a existé de toutes les éternités dans la société française. C'est quelque chose qui a été créé, qui a eu des forces sociales qui l'ont défendu au début du 19e siècle. Hein, on considérait encore le travail salarié comme une sorte d'héritage de l'esclavage. On ne le considère plus maintenant, parce qu'il s'est passé des tas de choses. Il y a eu des forces sociales qui ont changé les choses. Donc, je crois que la culture n'est pas du tout une fatalité. Et même, donc, comme vous disiez très justement, il y a des choses qui pourraient paraître à un moment donné impossibles dans l'état des habitudes d'une culture, mais qui ne sont pas impossibles parce que si on arrive à leur trouver un sens, qui soit un sens positif, en accord avec la vision générale de la culture. Et c'est ça, si vous voulez, actuellement, que l'on en est en train de chercher à propos du travail, et que malheureusement, on n'a pas encore trouvé.
Dans la dernière section de votre essai, Philippe Diribarne, vous réfléchissez plus particulièrement à l'état de notre système éducatif, et puis à la place que nous accordons aux immigrés. Un mot sur notre système éducatif. Vous constatez évidemment que l'école ne contribue plus à l'idéal d'égalité, si cher à la Troisième République. Vous écrivez, l'avènement d'un enseignement identique pour tous est devenu un impératif politique, aussi impérieux qu'impossible à imposer au corps social. Alors, je vais être brut, si c'est impossible, on peut toujours l'imaginer, mais ça donne quoi pratiquement ?
Ça donne quelque chose, disons, que la société française pratique énormément, quand elle se trouve devant des sortes de contradictions de ce type, qui est de dire une chose et d'en faire une autre. Donc, on dit dans le symbolique, et donc dans le symbolique, on dit qu'on va créer, on a créé le collège unique, on a créé, enfin, toute une série de choses que tous les Français connaissent parfaitement, et puis, dans la pratique, on fait tout autre chose que ce qu'on a dit. Alors, bien sûr, tous les bons esprits disent mais c'est scandaleux, on devrait ou dire ce qu'on fait ou faire ce qu'on dit. Mais c'est impossible parce que, à la fois, si vous voulez, l'impératif symbolique, hein, qui est de respecter les grandes valeurs républicaines d'égalité et d'égalité au sens français, hein, parce qu'au sens anglo-saxon, il n'y a aucun problème qu'il y ait toute une série d'établissements d'enseignement de niveaux très différents, dont certains vont coûter très cher, d'autres vont coûter très peu cher, parce qu'on est dans une logique très différente de marché et de capital humain. En France, on est dans une logique symbolique d'égalité des citoyens et d'accession de tous les citoyens au même rang à travers l'école et à travers l'effet de l'école, donc on ne peut pas dire, et on ne peut plus dire, on l'a dit une époque, on ne peut plus dire, on va rompre cette égalité symbolique des citoyens. Et en même temps, à la fois le corps social, disons, n'y rentre pas, parce que, évidemment, ceux qui sont en situation de pouvoir échapper à cette égalité, ne manquent pas d'y échapper.
Et la place que nous accordons à nos immigrés extra-européens, pourquoi est-ce en France que la tension entre un registre moral et un registre d'organisation sociale apparaît la plus grande ?
Parce que, à la fois, si vous voulez, on est dans ce registre universaliste, hein, dans lequel, donc, symboliquement, les immigrés doivent être traités comme des égaux et doivent avoir un, en quelque sorte, un statut comparable au statut des Français, disons non-immigrés. Et donc on n'accepte pas toute la vision communautariste ou les anglo-saxonnes dans laquelle certains sont enfermés plus ou moins dans des ghettos et sont laissés en quelque sorte à l'abandon, abandonnés à la pression de leur communauté qui les empêche de s'intégrer et de devenir, disons, de vrais républicains, disons, comme tout le monde. Mais en même temps, on est dans une société qui soupèse chacun et lui donne une place réelle et concrète dans la société en fonction de tout son cursus, de d'où il vient, de sa famille, de ceci, de cela, de sa culture d'origine, et les deux visions se télescopent continuellement.
Philippe Deribarne, une question encore avant la pause. Où se trouve le nœud gordien de notre situation, de notre modèle social français en crise, et où va-t-il falloir le trancher? Comment va-t-il falloir le trancher? Où faut-il porter notre effort?
Ben, là, j'avoue, enfin, ne pas avoir vraiment de réponse assurée. Au fond, ce que je peux faire, les chercheurs, c'est d'analyser, comprendre une situation. Bon. Il me semble que les pistes, c'est, comme ça a été le cas en 1789, c'est de passer d'une vision de ce qui est noble, qui soit très défensive, arc-boutée sur des positions établies, vers une vision qui soit plus tournée vers la conquête, plus conquérante, disons, de ce qui est noble. Avec, évidemment, ce que je la suppose, c'est de faire en sorte que ceux qui ont du mal à rentrer dans cette position conquérante, qu'on fasse un énorme investissement pour leur permettre, malgré tout, d'accéder comme les autres à des positions conquérantes.
Philippe Deribarne, en vous lisant, je songeais à un livre d'Antoine Compagnon intitulé « Les Antimodernes ». Alors, aucun rapport avec votre essai, puisqu'il s'agit de littérature. À ceci près, Antoine Compagnon dit que les antimodernes, qu'il ne confond pas avec les traditionalistes, nous séduisent. Et pour les définir, il cite Barthes. « Être d'avant-garde, c'est savoir ce qui est mort. Être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. » Est-ce qu'on est d'avant-garde ou d'arrière-garde? Est-ce qu'on aime pas encore ce qui est mort?
Ça, c'est le problème de toute société, et pas seulement de la société française, c'est de distinguer justement ce qui est mort de ce qui ne l'est pas. Il y a une belle phrase qui dit que le traditionnalisme, c'est la foi morte des vivants, et la tradition, c'est la foi vivante des morts. Et donc, je crois que c'est là, France. Les antimodernes, peut-être, en restent à la foi morte des vivants, s'attachent à des choses qui n'ont plus le lieu d'être. Mais que, en même temps, c'est la table rase, et la table rase a été une illusion. On l'a vu au moment de la Révolution française. La Révolution a cru faire. La table rase a voulu tout supprimer, les noms, le calendrier, etc. Tout changer, toutes les dates, les appellations. Bon. Et finalement, disons, la France a fait réellement une grande transformation à cette époque, mais en assumant ce qu'elle ne pouvait pas éviter d'assumer.
Eh bien, Philippe Deribarne, merci une dernière fois. Je rappelle le titre de votre essai qui était cette semaine sur notre table, « L'étrangeté française ». Il est paru aux éditions du Seuil. C'est tout à fait passionnant. Vous souhaitez de plus amples renseignements? Écrivez-nous à l'adresse suivante, idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée a été mis en onde par Luc Danchaud et réalisé par François Audouin. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.